les mardis après-midi de 4 à 6, en rappel les samedis soirs de 9 à 11 sur CIBL 101.5.
Hey, bonjour tout le monde, comment allez-vous? Comment allez-vous? Au microphone, c'est Jean Gagnon Doré. C'est la girafe en bleuze encore aujourd'hui. Tous les vendredis, on la voit passer sur la rue Sainte-Catherine au coin de Saint-Laurent. On va passer une girafe et c'est nous. C'est la girafe en bleuze qui déambule et qui tranquillement, petit rythme au rythme de ses notes de musique qui joue. Et puis qui reçoit des invités. Chaque semaine, on reçoit des jeunes artistes. Et cette année, ben, on a... ce vendredi-ci, on a un jeune artiste, encore une fois, quelqu'un qu'on ne peut pas ne pas recevoir parce qu'il vient de sortir un disque de musique solo, guitare et voix. Ça s'appelle « Chanson pour un café ». C'est nécessaire aujourd'hui d'avoir cette musique-là. Alors, ce jeune artiste, en fait, là, je viens de faire un retour d'il y a 50 ans, peut-être. Je viens de retourner il y a 50 ans. Chanson pour un café, c'est un album qui a été produit par un artiste qui s'appelle Gilles Valiquette. Bonjour, Gilles Valiquette.
Oui, bonjour. Moins jeune artiste.
Il y a quand même un 7 là-dedans, pour inverser peut-être. Mettons que tu as 71, on va dire 17 peut-être.
Oh, OK, d'accord. Mais où on se rejoint, c'est que dans nos têtes, on a toujours 25 ans.
Oui, ça c'est vrai. Dans nos têtes et dans nos cœurs, je pense. J'écoute ces musiques-là. Dans le fond, quand on écoute « Chanson pour un café », qui est le premier disque qui est sorti dans ta carrière à toi, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait ressembler? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes encore beaucoup?
Bien, je pense qu'on a toujours un attachement particulier, je dirais peut-être intime, avec nos premières chansons, nos premiers disques, nos premiers spectacles. Parce que quand ce moment-là arrive, on est loin d'être sûr de quoi que ce soit. Alors, on se demande si on va être à la hauteur. Puis finalement, les choses se sont bien passées pour moi. Ouais. Puis j'étais adopté par le domaine, par les gens du métier. Puis c'est mon genre de monde, sans plus de ça. Alors, c'était d'autant plus apprécié.
Oui, oui. Oui, puis c'est parce qu'il y a ma présentement, quand tu dis ça, je vois, je viens de parcourir ton dossier de presse, puis je vois que ce monde-là comporte de beaucoup, beaucoup de musique, bien sûr, mais beaucoup plus que de la musique. Comporte aussi de l'aspect technique, comporte aussi de l'aspect gouvernance, des droits d'auteur, des choses comme ça. Quand tu dis « c'est mon monde », puis on va en parler dans l'émission de tout ça, parce que je sens que c'est quelque chose qui a guidé ta carrière à toi. Ça fait combien d'années que tu es dans le métier maintenant?
Bien, je suis professionnel depuis que j'ai 20 ans. Puis j'ai 71 aujourd'hui, alors j'ai passé le cap des 50, je suis rendu à 51. Incroyable, mais vrai. Ouais, puis je te dirais, là, franchement, là, puis c'est pas une histoire que je te raconte, quand j'allais à l'école de musique, mon objectif, c'était être prof de musique quelque part. Okay. Parce qu'il n'y avait pas d'autre chose qui m'allumait à part la musique. Mais quand j'ai eu un appel pour m'encourager à participer à un spectacle... je me suis dit, ben, je ne raterai pas l'occasion, puis ça va peut-être durer juste 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines-là, je vais essayer là, de me rendre indispensable pour peut-être allonger ces 2 semaines-là. Mais j'ai toujours eu l'impression que mes jours étaient comptés dans le métier. Puis c'est quelque chose qui m'est resté, ça, tout le temps. Alors, tout ça pour dire, c'est que les 2 semaines sont devenues des mois, qui sont devenues des années. Mais encore aujourd'hui, quand le téléphone sonne, pour moi, c'est quelque chose de bien précieux. Puis, je me dis toujours, c'est probablement le dernier. Quelqu'un va me dire, c'est assez, là, je le retourne chez vous.
Oh, pas sûr. C'est drôle, je t'écoute, puis ce qui me fascine dans ce que tu dis, c'est quand tu nous ramènes à cette époque-là où tu commences, et t'es avec, aujourd'hui, on regarde ça 50 ans plus tard, on se dit, bon, il était avec Richard et Marie-Claire Séguin, Donc, Jacques-Michel, tout ça, on peut dire qu'il était, c'était garant de quelque chose, mais en même temps, eux-mêmes n'étaient pas connus encore à l'époque. Alors, non. On est dans un milieu où tout commence et les liens se tissent et le hasard fait que les rencontres ont lieu, finalement. C'est un peu ça qui s'est produit.
Non, c'est vrai. Moi, c'est quelque chose... j'en ai pris conscience peut-être plus qu'à la normale pendant la pandémie, parce que je pensais à ça... parce que je sais que cette période-là en a démoralisé plusieurs. Mais moi qui étais d'abord un amateur de musique, ensuite de ça, je suis devenu un exécutant. Quand on y pense, quand on réalise qu'il y avait tellement de nouvelles chansons à l'époque qu'on appelle des classiques aujourd'hui. C'est incroyable.
C'est vrai.
Là, on avait des nouveaux artistes qu'on les appelait de la relève, qui sont des légendes vivantes aujourd'hui. Mmh. On a vécu ça.
C'est vrai.
Moi, je pense à ça demain. Je me considère bien chanceux d'avoir été là quand tout ça est arrivé. Tu sais, c'est quand même... difficile à expliquer, hein, parce qu'on ne peut pas promener le contexte avec nous.
Non. Aujourd'hui, l'accès est beaucoup plus grand à la production de musique. On le voit, beaucoup de jeunes réussissent à produire quelque chose. Mais ça vient avec une marée de jeunes artistes qui débarquent, qui ont tous des choses intéressantes à dire, mais qui, en même temps, doivent travailler du coude pour se faire un nom, se faire connaître, tout ça. En tout cas, ça n'a pas été le cas dans votre cas. Vous, il y avait très certainement la volonté de réussir dans quelque chose pour un artiste comme toi, mais il y avait aussi les qualités qui émergeaient, puis cette possibilité de créer une musique, d'inventer quelque chose. Ouais, parce que ça n'existait pas, le folk rock, comme tu le faisais en 70.
Non, c'est vrai, mais tu dénotes quand même une différence très importante, c'est que ma génération à moi, nous étions une génération avide d'informations. Tu sais, on n'avait souvent pas de livres, on n'avait certainement pas d'Internet, pas d'école, pas de cours, pas rien. Alors si on voulait apprendre quelque chose, il fallait vraiment faire l'effort. Moi, je me souviens d'aller dans des salles de danse, pas pour danser, mais pour voir où le guitariste mettait ses doigts. Puis là, je courais à la maison pour essayer, voir si ça fonctionnait, puis tout ça. Tandis qu'aujourd'hui, comme tu as mentionné, je trouve que les plus jeunes sont inondés d'informations.
Ouais,
200 postes de ci, 40 canaux de ça... l'occasion de se rendre un peu n'importe où avec l'Internet, tout ça. Alors là, la difficulté est opposée, parce que comment focusser, en quelque part, faire l'inventaire de tout ça, puis aller piger ce qui nous sera utile quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut, ce qu'on aime. Alors, je sympathise beaucoup avec cette nouvelle réalité-là. Mais moi, je peux te dire que quand j'avais 12 ans, c'était clair pour moi ce que je voulais faire.
OK. Et c'était entre autres ce qu'on va écouter aujourd'hui, parce qu'on on va revenir tout de suite à la musique, parce que je le savais, je t'ai écouté en entrevue dernièrement, puis t'es une personne qui a une grande capacité de parler, et c'est très intéressant, moi je bois tes paroles.
Je peux te conter une anecdote?
Rapidement.
Écoute, à l'époque, là, quand on faisait des tournées de promotion, on partait dans l'auto, puis là, on faisait le tour, la Gaspésie, le Lac-Saint-Jean, l'Abitibi, ça. Puis souvent, quand tu arrivais dans les radios, il y a juste une personne qui faisait tout. Autrement dit, était au micro.
Oui, la table tournante.
Montait
les volumes.
Faisait le café, enlevait la neige en face de la porte. Alors souvent, on me posait une question, puis là, l'animateur disparaissait. Alors, il fallait que je parle tout seul jusqu'à temps que l'animateur revienne.
À déneiger l'entrée.
J'imagine qu'il y a quelque chose qui m'est resté depuis ce temps-là. Alors, voilà, je termine l'anecdote.
OK, bien, c'est super. On écoute tout de suite, donc, c'est Gilles Valiquette, notre invité aujourd'hui. Il vient nous présenter, puis on aura l'occasion d'en reparler tout de suite après. Retour à Chanson pour un café. Chanson pour un café qui fut son premier disque en 72, lancé en 72.
Bien, en fait, il était enregistré en 72, mais il était lancé en mars 73.
73. Et c'est pour ça qu'on parle de 50 ans aujourd'hui.
C'est pour ça qu'on parle de 50 ans.
Okay,
en fait, on aurait dû le lancer il y a plusieurs mois, mais pour les gens qui nous écoutent, là, c'est que par les temps qui courent, c'est que c'est difficile de produire des disques, des versions vinyles, parce que c'est tellement en demande. C'est le seul secteur là, du domaine là, qui est en expansion présentement. Alors, il a fallu être patient un peu d'avoir les
À ma grande joie, le vinyle revient et c'est un plaisir parce que ton disque nous revient en format vinyle.
En tout cas, on est toujours dans la bonne année.
72, 73, 2022, 2023.
Voilà.
La première pièce qu'on écoute, c'est « Tout est mieux là-haut, n'est-ce pas? » on l'écoute, c'est à la version refaite, en fait, sur le disque qu'il y a là. Et on revient avec Gilles Valiquette pour continuer de parler de ce magnifique disque « Retour à chanson pour un café ».
fraîche matinée. Quelle joie de te rencontrer. Curieux, je pensais justement à toi. Dis-moi, comment vas-tu? Dis-moi, qu'es-tu devenu? Et puis, comment va José? Il y a longtemps que je l'ai vu. C'était les jours où j'étais en amour. C'était le temps. À moi, ça va très bien. Je joue à Québec demain. Dis, as-tu écouté mon dernier? Il y a quelques chansons là pour toi. Dommage, je dois te quitter. Tu vois, je suis trop occupé. Il faudrait bien se rencontrer, s'asseoir et puis parler. Parler des jours où j'étais en amour. Parler du temps où tout était trop court. Parler des jours où j'étais en amour. Curieux, je ne pense qu'à ça.
Entendre tiré de l'album initial, c'est pas la version initiale, mais du premier album de Gilles Valiquette, Chanson pour un café. La version refaite, c'est le disque que dont Gilles vient nous parler aujourd'hui. C'est un album qui présente, en fait, ce premier album, mais d'une façon totalement différente. J'ai un coffret devant moi, Gilles. Peux-tu juste le décrire pour que les gens aient une idée un peu de ce qu'on va retrouver en mettant la main sur ce disque de vinyle, en fait?
Bien, pour tenter de faire une longue histoire courte, quand j'ai abordé mon premier album, j'étais un guitariste accompagnateur. Puis j'étais chanceux parce que Jacques Michel m'a invité à créer des chansons avec lui. Il y en a deux sur son album, Pas besoin de frapper. Tout de suite après, Marie-Claire Séguin a choisi d'interpréter Tout est mieux là-haut, là, qu'on a entendu tantôt.
Okay, c'est donc
sur l'album des Séguin. Alors, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelqu'un quelque part qui aimerait peut-être chanter une autre de mes chansons. Alors là, je me suis payé deux soirs de studio. On a fait 20 maquettes de mes 20 premières chansons. Puis un de mes amis, René Letarte, ex Bel Canto, me dit, sais-tu, tu devrais sortir ça en disque. Il dit, je connais du monde, moi, je connais des compagnies de disques qui seraient intéressées. Alors, de fil en aiguille, je me suis retrouvé avec un début de carrière puis un premier album qu'on a intitulé « Chanson pour un café ». Quand je m'étais payé mes deux soirées de studio, j'avais enregistré 20 maquettes. Mmh. 20, seul à la voix et guitare. Puis c'est à partir de là, on a choisi 13 chansons. Puis on les a habillés un peu avec un peu de percussion, harmonie vocale, tout ça. Puis c'était pas mal le premier album. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, dans ma tête, ces chansons-là, ces 20 chansons-là, c'était comme une bouteille que je jetais à la mer en espérant que quelqu'un la trouve quelque part. Puis là, je me retrouve 50 ans plus tard à être celui qui trouve la bouteille sur son rivage. Puis là, je deviens l'interprète de qui j'étais quand j'avais 20 ans. Alors, pour en revenir à l'album...
Back to the Future.
Back to the Future, c'est pas mal ça. Alors, ce qu'on retrouve sur l'album, c'est qu'on a un CD qui regroupe... parce que moi, je suis un ramasseur, alors j'ai tout gardé. Fait que j'ai les bandes originales de la fameuse maquette de 20 chansons.
Mais
alors,
les bandes originales, des bandes-bandes ou des cassettes ou des bandes-bandes?
Non. Les maquettes ont été enregistrées sur 8 pistes.
8 pistes.
Bande 1 pouce, là. Tu
veux dire, oui, c'est des gros tapes, ça.
Moi, j'ai la bande, là, mais essaye de trouver la machine. La machine, pour la faire jouer. Mais alors, on retrouve ce CD-là. Puis là, on a la révision, si on veut, de l'album. Parce que dans ma tête à moi, c'est comme si je faisais Chanson pour un café comme un vrai album pour la première fois.
Okay.
Alors, dans le fameux coffret, qui est 12 par 12, parce que pour moi, ça, c'est la dimension d'un vrai album, on a un deuxième CD qui est le nouvel album. Puis moi, en tant que... qui suis un amateur de musique avant d'en faire, quand j'ai quand il y a un nouveau disque qui sort et que je veux m'acquérir, je me demande toujours, est-ce que j'achète la version vinyle ou la version CD? Alors, moi, j'ai réglé le problème, j'ai mis les deux dans mon coffret.
Oui, c'est ça c'est ce qu'il faut dire aux gens. Quand on rencontre ce disque-là, si on veut se le procurer, il faut voir que derrière, on a tout le descriptif, en fait, le CD du disque de vinyle original, on l'a connu, Chanson pour un café. Est-ce qu'il était déjà sorti en CD? Je me rappelle
oui,
pas.
Oui,
il était déjà sorti.
Écoute-moi, il a même sorti en 8 pistes.
Ah, OK!
Alors, si ceux qui nous écoutent savent ce que c'est qu'un 8 pistes, vous venez trahir votre âge.
Oui, il y en avait une en voiture. J'ai papa en avait une dans sa voiture. après ça, il y a la maquette. Le deuxième CD, et tout ça est dans l'album. Le deuxième CD, c'est la maquette dont tu viens de parler, une vingtaine de chansons qui, dans le fond, dont certaines n'ont pas été. Donc, il y a des belles découvertes en perspective. Là, c'est ça que ça veut dire. Et il y a le vinyle qui vient avec la face A, la face B, bien sûr.
C'est ça. Puis ce que j'ajouterais à ça, c'est comme... On a vraiment les chansons dans leur version primitive. Puis ensuite, c'est l'autre côté de l'arc-en-ciel, travaillé comme un vrai album. Puis j'ajouterai à ça, on a un livret de 24 pages
qui
raconte le contexte
photos,
de tout ça.
Oui,
parce que, c'est à mon avis, c'est important de comprendre le contexte, peut-être pour apprécier là, les subtilités là, des enregistrements.
Oui. Je t'entendais parler de René Letarte qui t'a suggéré d'aller en studio avec ce matériel-là.
Non, il ne m'a pas suggéré d'aller en studio. Mais c'est qu'un coup qu'il a entendu.
Ouais.
Il dit ça mériterait que d'être commercialisé.
Est-ce qu'il n'y avait pas une gageure, dans le fond, dans tout ça? Parce que, est-ce que ça existait? Ça n'existait pas trop, ce type de production-là, finalement.
Il n'y avait pas de gageure, excepté que ce n'était pas l'habitude qu'un nouvel artiste lance un album en partant.
Tu
commençais avec un 45 tours, même à ça, on ne te laissait pas faire ta chanson. Il fallait que tu fasses une version d'un succès français ou d'un succès américain. Puis si ça fonctionnait, là, on te laissait faire ta chanson sur une face B. Puis un coup que tu avais deux succès au palmarès avec deux 45 tours, là, on pensait à te laisser faire un album, puis on voyait ça comme un produit dérivé. Autrement dit, maintenant que l'artiste est populaire, on va essayer de capitaliser sur sa popularité avec un album.
Mm.
Alors, disons qu'on était loin de la philosophie Sgt. Pepper's.
OK. Ouais, puis c'était pas si longtemps quand même, c'est 4 ans avant.
C'est vrai.
On continue donc à écouter de la musique de ce disque-là. Il va y avoir une pause qui va suivre tout de suite après. Dans les thèmes, ce que je vois, en fait, ce qui caractérise ce disque-là, c'est presque des chansons sur
le quotidien, dans le fond. Hein? Viens prendre un café, c'est une belle journée. Viens me voir demain, dis-lui bonjour. Trop de questions. On est vraiment dans le quotidien des choses.
Oui, puis c'est quelque chose qui m'est resté. Essayer de construire, si on veut, une chanson à partir d'éléments tellement ordinaires. Moi, ça me fait penser un peu quand on voit des films documentaires là, sur, je sais pas, le making of Star Wars. Mm-hmm. Puis là, on voit des grosses fusées, puis des planètes, mm-hmm. tout ça. Mais dans le fond, ils ont pris une petite bébelle qui ont filmé autrement. Puis là, t'es là, tu n'en reviens pas, tu te dis, ben voyons donc, c'est fait avec des éléments tellement ordinaires.
Ouais, ouais.
Alors j'ai toujours senti que mes chansons avaient cette... En tout cas, je tentais d'avoir cette qualité-là à l'encontre de... excusez-moi, de tirer les cheveux.
Oui, oui, oui. Des d'en mélodies, mettre de beurre épais, qu'on peut dire.
Oui, voilà, des mélodies, des harmonies, puis...
Oui, c'est intéressant.
Alors, c'est un défi pour moi.
On écoute tout de suite une pièce tirée de l'album « Retour à chanson pour un café » d'avec Gilles Valiquette. Ça s'appelle « Viens me voir demain ». Ça illustre ce qu'on vient de se dire. On passe à la pause tout de suite après et on revient avec Gilles avec d'autres musiques.
Viens me voir demain. Sous mon toit, il fait bon. Il n'y a pas d'étranger, il n'y aura pas de cloison. Ma porte est grande ouverte. Il ne manque plus que toi pour faire de cette demeure une maison. Il n'y a pas de foyer, mais il y a mon amour. Pas d'électricité, le soleil brille toujours. Mes bras sont grands ouverts. Il ne manque plus que toi pour faire de cette demeure une maison, une maison. Les jours deviennent plus longs, les nuits ne se comptent plus. Plus de saison, les étoiles se sont tues. Viens me voir demain, il n'y a pas de raison. Dis que tu viens pour écouter cette chanson. Est grand ouvert. Il ne manque plus que toi pour faire de cette demeure une maison. Notre maison.
Bingo de CIBL arrive sur les ondes du 101.5 FM. Courez la chance de gagner 2 500 $ en prix. Procurez-vous une carte de bingo dans un commerce inscrit sur notre site web et branchez-vous sur le 101.5 FM. Pour connaître le point de vente le plus près de chez vous, consultez le CIBL1015.com. On joue au bingo de CIBL tous les dimanches dès 16h.
Les générations se parlent, s'obstinent, se surprennent à l'émission Trait d'Union. Des humoristes, des réguliers, des invités, des amis, encore des amis, se joignent et sont annoncés à chaque mercredi sur nos réseaux. On parle de tout, tous les vendredis, à l'émission Trait d'Union, à 14h, sur les ondes de CIBL 101,5.
Je m'appelle Charlie Mulot. Je fais du conte, j'en mets en scène et surtout, j'aime beaucoup en écouter. Tous les vendredis à 20h, je vous donne rendez-vous pour la cabane à conte. Chaque semaine, j'inviterai une conteuse ou un conteur pour parler avec moi de leur pratique et pour vous raconter une histoire.
Décadence. 3 heures de musique deep house, soulful house, techno, disco et garage. Décadence. Les vendredis dès 22h, Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. CIBL, au cœur de la décadence.
Je dis que tout est bien, c'est que juillet vient demain. Quand je dis que tout revient, c'est qu'avril est sur mon chemin. N'est-il pas bien? N'est-il pas bien? Chacun de nous a besoin d'un amour entre ses bras. Chacun de nous a besoin d'un rêve où il n'existe pas. Quand je dis que tout est bien, c'est que je te vois demain. Quand je dis que tout revient, c'est que l'amour est sur mon chemin. N'est-il pas bien? N'est-il pas bien? Chacun de nous a besoin d'un amour entre ses bras. Chacun de nous a besoin d'un rêve où il n'existe pas. Chacun de nous a besoin d'un petit rayon de soleil, du chant de l'abeille, d'une nuit sans sommeil, d'un amour sans pareil. D'un amour sans pareil. D'un amour sans pareil. D'un amour sans pareil. Quand je dis que tout est bien, c'est que je m'en vais demain. Et quand je dis que tout revient, c'est que tu es sur mon chemin. N'est-il pas bien? N'est-il pas bien? Chacun de nous a besoin de l'amour entre ses bras. Chacun de nous a besoin d'un rêve où il n'existe pas. Chacun de nous a besoin d'un amour sans pareil. D'un amour sans pareil. D'un amour sans pareil.
Alors, on poursuit avec Gilles Valiquette, son retour, son album qui revient, un peu comme la chanson de John Lennon est revenue cette semaine. Mais il est encore vivant, je vous rassure. Et on n'a pas numérisé sa musique pour essayer de remplacer, corriger tout ça. Il est parti de ses maquettes et il a refait le disque, en fait, complètement, même en nous donnant la version originale et plus même. Alors, c'est « Chanson pour un café », le premier disque de Gilles Valiquette. On a parlé beaucoup de ce disque-là, de certaines chansons, de la création, tout ça. Il y a deux aspects, Gilles, que je veux discuter avec toi aussi, parce qu'ils sont présents. Quand on fait un peu de recherche sur toi, j'ai fait ça cette semaine sur le web, pour voir un peu, parce que je t'ai comme un peu perdu de vue à un moment donné. Tu sais, pour moi, tu es associé aux années 70-80, où j'ai beaucoup suivi ta carrière, moins après, mais même si on s'est croisés plus tard dans d'autres contextes. Et j'ai vu que t'avais été très impliqué à deux niveaux. T'avais été impliqué dans ce qu'on pourrait appeler la gouvernance en ce qui concerne la musique, à la SOCAN, où t'as été très, très impliqué. Et t'as été impliqué aussi dans le côté technique, en créant une école, en fondant une école qui s'appelle Éducation ou...
Non, le Collège Musitechnique. Mais en fait, sur ce sujet-là, en fait, j'ai créé un programme qui s'appelle Conception sonore assistée par ordinateur.
OK.
Le Collège Musitechnique a été créé pour dispenser ce programme-là.
OK.
Là, aujourd'hui...
On est en quelle année? Juste une parenthèse, ouais, parce que c'était précurseur.
Au début des années 80... Le collège a été lancé en 87. Le programme a été mis sur pied, là, je dirais, à partir de 83. Ça m'a pris un bon 4 ans à monter le programme puis le faire accepter par les instances supérieures du ministère de l'Éducation.
Oui, parce qu'on devait te regarder d'une drôle de façon. L'ordinateur était loin d'être établi à l'époque.
Ce qui a un petit peu amorcé tout ça, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, je trouvais que généralement, j'aimais acheter des disques, mais je trouvais qu'ils étaient généralement de moins bonne qualité que les disques de niveau international.
Oui, oui, oui.
Puis c'est un peu facile à expliquer. C'est comme si on s'est éveillé un peu tard à cet aspect-là des choses, puis on faisait du rattrapage. Mais quand même, là, déjà dans les années 70, on commençait à se défendre assez bien. Mais quand le microprocesseur au départ et l'ordinateur est arrivé à la fin des années 70, début des années 80, ça a obligé tout le domaine à retourner à la case départ. Puis moi, je me disais, bien là, au Québec, on n'est pas moins fin, moins intelligent qu'ailleurs au monde. Alors, pour moi, c'était important de ne pas manquer le bateau.
Oui, oui.
À partir du moment où les fabricants d'instruments de musique se sont entendus sur un protocole standard, bien, tout de suite en partant, j'ai pensé que les musiciens devraient être éduqués à cet égard-là pour, en fait, rendre leur vie plus facile. Il faut mettre en parallèle avec ça qu'on était à une époque où on était dans un creux de vague, les compagnies de disques déchiraient les contrats.
Oh, mon Dieu.
Et c'était les producteurs de spectacles, souvent, ils préféraient faire jouer des disques disco plutôt que d'engager des musiciens. Alors, il fallait réviser nos méthodes de travail.
Les années 80 étaient dures.
Puis c'est ce que j'ai fait. Alors, moi, dans ma tête à moi, c'était clair que dans un futur rapproché et lointain, qu'il y aurait du numérique dans nos outils de travail. Puis ce que j'avais pas, j'ai eu raison là-dessus, mais ce que j'avais pas figuré, c'est que il n'y a pas juste dans le domaine du spectacle puis de la musique où ce serait
nécessaire,
mais dans les domaines du jeu vidéo en particulier. Là, aujourd'hui, là, à Montréal, on est une capitale du jeu vidéo. Puis quelque part, il y a une dimension sonore à ça. Ouais. Puis le fameux cours conception sonore sert à éduquer les jeunes à ça. Alors, je suis bien fier. Aujourd'hui, toutes les écoles de musique publiques ou privées enseignent en tout ou en partie mon programme. Alors, je suis bien fier de ça. C'est le fun d'avoir raison, des fois.
Oh, t'as pas dû te tromper souvent. Alors, toi, d'après ce que je peux voir, d'après les échos qu'on reçoit du travail que tu as fait, je pense que tu t'es pas trompé trop souvent. On revient à ta musique. Dis-lui bonjour. Qu'est-ce que tu pourrais dire de cette chanson-là? Elle a bien marché à l'époque, Dis-lui bonjour.
Hein? Pas vraiment, non. C'était le premier 45 tours officiel. Ça a tourné quelque peu là, sur les nouvelles radios FM de l'époque, mais il n'y en avait pas beaucoup. Mais à la radio commerciale, qu'est-ce qu'on appelle la radio AM, ce qu'on m'a dit à l'époque, c'est qu'on n'était pas pour faire tourner ce disque-là parce que c'est pas dans la couleur du moment de faire jouer un gars qui chante seul à la guitare.
OK.
Alors, moi et Félix Leclerc, on était fait.
Fait qu'on t'écoute, toi, mais pas Félix Leclerc. On t'écoute tout de suite.
Dis-lui bonjour. Dis-lui que je ne l'attends plus. Je dois prendre le dernier train. Il y a des jours où mes yeux regardent, mais ma tête ne voit pas très bien. Dis-lui, je dois me décider. Dis-lui que je me vois pressé de choisir une option. De prendre une décision, de choisir ma destination. Je dois prendre le dernier train. Dis-lui qu'un jour nos destinées se rencontreront bien et nous fêterons jusqu'au lendemain. Il y a des jours où mes jambes marchent, mais ma tête ne suit pas très bien. Dis-lui, je dois me décider. Dis-lui que je me vois pressé de choisir une option. Prendre une décision, de choisir ma destination, je dois prendre le dernier.
Toujours des soins apportés à une production comme celle-là. On écoute la version repensée, refaite d'aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une belle occasion pour un auteur comme toi ou qu'est-ce que ça représente pour toi que de refaire ces chansons-là? Je t'ai déjà entendu me dire que c'était des maquettes en réalité. Alors, c'est comme si c'est la revanche du travailleur en studio qui...
Ben, en fait, c'est l'occasion d'en faire un album. C'est surtout
okay,
ça.
OK. Parce que c'est sévère par rapport au premier disque. La première version, c'était un album, le premier aussi.
Oui, mais moi, je ne l'ai pas abordé de cette façon-là.
Moi, c'est ça. Toi, tu ne l'as pas conçu.
Si on revire l'argument d'un autre côté, je ne vois pas quel autre album que j'ai enregistré dans le passé qui mériterait d'être refait.
Okay.
Parce que tous les autres, je l'ai fait avec l'idée complet. De faire un album en tête.
OK.
D'ailleurs, mon deuxième album, lui, dans ma tête, c'est comme mon premier.
Puis il sonne béton, là. C'est un vraiment bon disque.
Oui, il sonne bien. Mais tu vois, sur cet album-là, c'était l'époque, ça, où c'était un petit peu à la mode de découvrir des artistes qui étaient capables de jouer tous les instruments. McCartney avait joué tous les instruments, son premier album.
Il y avait
Stevie Wonder sur Inner Visions. Puis moi, mon meilleur, mon top, là, c'était Todd Rundgren avec Something Anything. Ça, pour moi, là, c'est l'ultime. Là. C'est que quand je suis arrivé avec mon deuxième... avec le deuxième arrêt, je me suis dit, ah, moi aussi... Je vais tout jouer. Ça fait que la moitié de l'album a été fait alors que je jouais tous les instruments. Mais là, moi, je ne suis pas un batteur. Alors, il a fallu que j'enregistre la batterie en pièces détachées.
Je ne sais pas
si tu réalises, mais c'est long, longtemps.
Et ça doit être laborieux.
Après avoir fait la moitié de l'album, je me suis dit, ben voyons donc, là, ça n'a pas d'allure que de perdre son temps comme ça. Ça fait que j'ai appelé des musiciens que je connaissais, en fait, des musiciens avec qui on avait imaginé là, l'album « Tous les jours de la semaine » de Pierre Letourneau. Puis on a fait tout le reste de l'album, autrement dit, la deuxième moitié en deux jours. Alors là, je me suis trouvé un peu niaiseux là, d'avoir perdu tout ce temps-là.
Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, perdre ton temps, gagner du temps.
Ah oui, absolument.
C'est une préoccupation pour
toi. Tu sais, quand on parle là, de la circulation à Montréal, comment que c'est laborieux avec les cônes oranges et tout ça. Puis là, il y en a qui disent, c'est notre qualité de vie qui en souffre puis tout ça. Bien, moi, je vois un pas plus loin. Si j'avais été pris dans le trafic comme on l'est aujourd'hui, j'aurais pas pu faire la moitié des choses que j'ai faites. Mm-hmm. Alors, quand je pense à ça, là, ça me fait grimper dans les rideaux. Alors, pour moi, c'est un problème majeur qu'il faut régler. Quand je pense à toutes les occasions puis toutes les bonnes et belles expériences que les gens pourraient vivre plutôt que d'être assis dans l'auto
dans la
à attendre. En tout cas, je vais arrêter là
parce que sinon, je vais me fâcher
là, puis je vais mal parler.
Petite montée de lait ici.
Voilà.
On ne creusera pas trop parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour parler.
Pas aujourd'hui,
c'est ça. Aujourd'hui, on parle de ce disque-là. Justement, tu vois, la pièce qui suit s'appelle « Trop de questions ». Trop de questions. En fait, là, je viens de penser à quelque chose que j'avais dit. C'était sur la face B. Hein? Pour les gens qui...
c'est vrai.
Qui
c'est toujours sur la face B, oui.
C'est toujours sur la face B, c'est ça. Alors, le disque reprend le même... posture, le même enchaînement.
Ah, la même séquence, oui. La même séquence qu'originale.
Sauf une pièce au début.
Sauf une pièce qui est un peu comme un couloir qui nous amène à quitter l'album de 73 pour apprécier celui de 2023.
Et il est un petit peu plus long, hein? L'album numérique fait 46 minutes, j'ai calculé, moi.
Oui, c'est parce que...
L'album vinyle faisait 39 minutes.
Oui, c'est vrai. À cause, principalement, je crois... que certaines chansons ont des tempos plus lents.
OK. Parce qu'elles ne sont pas forcément...
Je pense que l'album original a l'aspect fringant de la jeunesse, tandis que le nouvel album a un côté mature, plus adulte, disons.
OK. Fait que l'adulte, on va écouter Trop de questions. On écoute ça et on revient avec Gilles pour finir l'entrevue sur son dernier album.
Quelle heure est-il? Quel âge as-tu? Essaie de me dire exactement où tu es rendu. Où est-ce que t'as trop bu? Je te sens confus. Tu as trop bu. Quelle heure est-il? Quand le ciel est bleu. Quelle Et là j'as-tu quand tu es heureux. On fait tout ce que l'on peut. La vie est un jeu. On perd et puis on gagne un peu. On se pose beaucoup trop de questions. Quand ta montre s'arrête, quel âge as-tu quand ton cœur ne bat plus? Ne sois pas confus. Nous avons trop bu et nous posons trop de questions.
Alors, c'était trop de questions. Puis je disais à Gilles, en parlant de cet album-là, que ta voix vieillissait pas, que ta voix, toi, tu me dis, si ça se trouve, elle a peut-être maturé, elle a peut-être gagné dans quelque chose.
Oui, il faut dire qu'on a des outils aussi qui nous aident à nous améliorer. Ça, c'est bien. Mais ce que j'allais dire, c'est que à l'époque, à un moment donné, on a un calendrier, puis c'est écrit, vendredi après-midi, Gilles va faire la voix sur telle chanson.
Oui, oui.
Mais peut-être que le fameux vendredi après-midi, Gilles n'est pas en forme extra là, pour la faire.
Okay.
Mais on n'a pas le choix, on la fait du mieux qu'on peut,
oui.
Puis ça règle ça. Tandis que maintenant, on peut se partager les bandes, on peut se les télécharger, si on veut. Alors, on peut faire le travail en studio, je dirais, classique avec la bande de musiciens. Puis je peux faire du mieux, de mon mieux pour faire ma voix à ce moment-là. Mais je peux me faire télécharger les pistes sonores, les installer chez moi. Puis si à 6 heures du matin, demain matin, j'ai le goût de chanter cette chanson-là, bien là, je peux la faire aussi. Fait que là, on a une option.
Ouais, ouais,
puis je pense que ça paraît ça aussi.
Ça facilite ouais. La pratique. Dis-moi, un peu pour boucler tout ça, parce que on s'en va de plus en plus vers la fin de l'émission. Est-ce qu'on peut dire qu'un disque comme ça, celui que tu viens de faire, Retour à chanson pour un café, c'est une version améliorée de la première version, de la première chose, ou autrement dit, c'était quoi ton intention derrière ça?
Qu'est-ce qui
t'habitait quand tu as décidé, je refais ce disque-là?
Bien, je pense que l'intention, je dirais, transparente de tout ça, c'est que en principe, une bonne chanson, ça n'a pas d'âge.
Mm.
Puis c'est peut-être le point que j'essaie de prouver avec
okay,
tout ça.
OK, c'est beau.
Moi, je trouve que une chanson, c'est une chanson, là, mais on les habille, on peut les habiller différemment. On ne s'habille pas en hiver comme on s'habille en été, mais ça demeure la même chanson. C'est comme nous autres. Nous, en tant qu'êtres vivants, on ne s'habille pas toujours pareil, mais on est les mêmes êtres vivants. Ça fait que c'est un petit peu ça qui est la trame, comment je dirais ça, donc, transparente de ce truc-là. Parce que quand l'idée est venue de célébrer le 50e anniversaire, la façon classique aurait été de remasteriser l'album.
Oui, c'est vrai.
Autrement dit, le faire entendre sous...
nettoyer.
Une amélioration là, bonifiée au niveau sonore. L'autre chose, on aurait pu faire un album de duo. Gilles aurait pu chanter avec une série d'interprètes du moment.
C'est vrai. Comme
ça aurait été intéressant. Encore, on aurait pu avoir un album hommage ou d'autres interprètes ce serait à tour de rôle, aurait choisi là, une des chansons. Mais vu que cet album-là, la façon dont il s'est fait avec l'idée des maquettes et tout ça, ça m'a donné une occasion que d'autres n'ont pas. Alors, c'est là que je me suis dit, d'une certaine façon, ça devient un atout. C'est pas un problème. Alors, j'ai sauté sur l'occasion. Puis là, je suis bien fier de l'avoir fait.
Oui.
Puis, comme on disait plus tard, là, je vois pas comment je pourrais faire ça avec d'autres albums là, du passé.
Disons. Moi, je comprends. Parce qu'ils sont dans une version qui correspondait satisfaisante, on va dire,
ouais.
ou complète.
Oui, puis là tu veux pas déranger le passé non plus. Moi-même, en tant que fan des Beatles, par exemple, on a McCartney qui, sur son projet de Broad Street, a repris 4 chansons des Beatles. Peut-être que dans sa tête, à lui, il les a améliorées. Mais pour nous, là, les admirateurs...
Une chanson, c'est une photo d'un moment.
Même avec ses fautes, je dirais.
Oui, bien sûr.
C'est parce que quand elles ne sont plus là, ça dénature un peu notre moment. Parce qu'il y a tout un contexte qui est transporté par ces chansons-là. Ça fait que, tu sais, il y a une limite à comment on peut, entre guillemets, niaiser avec ça.
Okay. Et Gilles, écoute, ça a été un plaisir de te recevoir. C'est vraiment intéressant de parler de musique avec toi. Il faudrait que tu reviennes pour nous parler de Deuxième Arrêt. J'aimerais ça le faire avec toi si ça tient un jour, si c'est possible. J'aimerais ça te réinviter à reparler de ça. Ce que je te souhaiterais peut-être, et dis-moi si ça te conviendrait, parce qu'il nous reste une minute, il nous reste une dernière pièce à écouter, « Chère Véronique, comme je l'imagine
». Oui, oui.
Une belle petite chanson. Mais juste avant, une évolution intéressante qui pourrait être, c'est que des jeunes s'approprient tes chansons et l'intègrent à l'intérieur de leur spectacle. Des jeunes qui font de la guitare et des voix, comme ça se fait de plus en plus. On voit un retour à ça, là, présentement.
Je trouve que créer des chansons, c'est comme mettre des enfants au monde. Puis ces enfants-là ont leur propre vie. Alors, pour sûr, ces chansons-là pourraient se retrouver dans le cheminement d'un autre artiste. Puis j'en serais bien fier. Mm. En fait, je remercierais ces artistes-là d'avoir accueilli ces chansons-là chez eux.
Dans leur patrimoine
avec,
à eux.
Oui, avec grande générosité, je dirais.
Bien, merci Gilles. On pourra parler de 56 000 affaires encore. J'ai plein de sujets. On y reviendra éventuellement. Je te remercie d'être venu à l'émission, de nous avoir présenté ton disque. Et puis, il y a un spectacle qui s'en vient là, rapidement.
Oui, vendredi prochain, le 10 novembre, au Théâtre Outremont.
Dans le cadre du coup de café
en c'est ma rentrée à Montréal. On a un bon spectacle.
Oui.
On fait les chansons que vous voulez entendre de Gilles Valiquette. On a des trucs spéciaux,
oui.
bien entendu.
Il nomme les musiciens aussi.
Ah, ben oui, les musiciens. Écoutez, j'ai le batteur de Céline qui est en retrait là, par les temps qui courent, Dominique Messier. On a le bassiste de... je cherche mes noms. En tout cas, Rémi Malo, Monique Fauteux, qu'on connaît.
Monique Fauteux d'Harmonium, qui avait...
On a aussi Julie Valois. Puis on a Marc Pérus, là, qui est de l'équipe de Luc de la Rochelière, normalement. En tout cas, c'est une équipe formidable. C'est un privilège et un plaisir pour moi de jouer avec ces gens-là. Puis ça paraît sur scène aussi. Là.
OK. Ben alors, je ne sais pas vous autres qui nous écoutez, mais moi, je vais être là avec quelqu'un, puis on va se taper des mains, puis on va être content de te revoir en spectacle, Gilles Valiquette. Merci.
On va s'organiser pour rendre ça mémorable.
OK. C'est super. Merci. Bye-bye. À la prochaine.
Souris derrière, comme je l'imagine, elle pense bien, comme je l'imagine, elle pourrait même être celle qui sera la femme que j'aime. Comme je l'imagine, elle aime l'aurore, les matins d'hiver et la brume qui dort, les nuages rouges quand l'aube se lève. Et vient le moment où finit mon rêve. Où vit-elle? Peut-être dans le sud, dans les villes, le soleil vous brûle. Je regarde vers le nord, je regarde vers le sud, tout disparaît. Avec mes certitudes. Thank you.
Les 4 et 5 novembre, le Salon national des animaux de compagnie vous attend au Stade olympique. Découvrez-y une impressionnante variété de chats, de chiens et d'animaux en tout genre, en plus de compétitions d'agilité et de spectacles de la Flying Team, le rendez-vous incontournable pour la famille. Détails au snac.ca.
Ici Yves Chamard. J'aurai le plaisir de venir partager avec vous une heure semaine la merveilleuse histoire de Québec en musique. Chaque samedi à compter de 6h30 à CIBL 101.5 Montréal.
Ici Maude Desbois. À l'effet durable, on parle d'environnement, de défis de société et de développement durable en s'appuyant sur l'actualité environnementale. C'est un rendez-vous tous les mardis 10h, rediffusion lundi 8h sur les ondes de CIBL 101.5.
CIBL 101.5 Montréal.
Vivre Montréal.
Prendre la radio communautaire parce que les gens se sentent impliqués là, comme une espèce de longueur d'onde.
CIBL, au cœur de la vie citoyenne.